Il est 19h sur campus et d'ailleurs vous avez bien raison de nous écouter. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous, vous venez d'embarquer dans le premier sous-marin de l'année. D'ailleurs, on en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de toute la part de l'équipe de Radio Campus. Au programme de l'émission de ce soir, nous allons parler professionnalisation à la fac. Et pour ça, Paola Dupéret, qui est maître de conférence à la Cato et responsable du Master 2 Ressources humaines en alternance, est avec nous, ainsi que Sandrine Guichard, Alice Fontenot et Marion Bonnet, qui sont toutes les trois étudiantes. Vous aurez également le droit au mash-up de l'actualité d'Antoine. Et oui, son cabinet des curiosités faisait de l'ombre à celui de France Inter, on va dire ça comme ça, donc on a dû s'adapter. C'est ça, Antoine ?
Tout à fait, Pierre-Louis, bonsoir.
Bonsoir. Et bon, allez, comme d'habitude, on commence par un reportage.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Un reportage de Thibaut. Thibaut, tu t'es intéressé à un lieu qui intriguait toute la rédaction, j'ai nommé le Vélobar.
Le Vélobar, situé en face de l'école des Beaux-Arts, rue Bressigny, a ouvert en juin dernier. Géré par un couple venu de l'Isère et cycliste passionné, leur but est de mêler restauration végétarienne, bio et locale avec une offre de réparation de vélos. Ils nous racontent comment le projet s'est monté.
En fait, l'idée, alors ça faisait déjà quelques années que nous avions l'intention de monter un projet tous les deux, de quitter nos statuts de salariés et de monter une affaire. Et il se trouve que début 2014, on a eu connaissance d'un café vélo qui s'ouvrait à Grenoble. Et ça nous a beaucoup intéressés. On est allé les voir, on a discuté avec eux sur leur formule. Donc c'était aussi un atelier de réparation vélo et une restauration bio. Et on a trouvé l'idée intéressante. À partir de là, on a commencé à se renseigner sur d'autres cafés vélos. Il y en a un à Lyon. Et puis depuis, on a aussi rencontré la Musette à Nantes, qui a ouvert également en 2014. Alors, le Joie d'Angers, après une petite étude de marché, on s'est rendu compte que déjà, il n'y avait plus beaucoup de réparateurs en centre-ville. Donc, il y avait déjà un besoin en termes de réparation vélo. Et on s'est aussi rendu compte que Angers était très bien placé dans les classements des villes en termes d'aménagement de pistes cyclables. Donc un potentiel de cyclistes important. Et voilà, le concept n'existait pas encore à Angers. Et pour toutes ces raisons, on a commencé à chercher sur Angers. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. On a trouvé qu'il y avait une vraie culture vélo à Angers. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cyclistes de ville.
90% des vélos, c'est des vélos de ville.
C'est des vélos de ville.
Des anciens vélos, très vieux vélos de ville.
On a trouvé que la clientèle était en adéquation avec ce que nous on recherchait, c'est-à-dire voilà, un contact avec des personnes qui font du vélo en permanence.
Qu'est-ce qu'on aime faire, voilà. C'est réparer des vieux vélos et les remettre en état, garder en circulation des vieux vélos que j'en aurais aimé jeter ailleurs. À Angers, ce n'est pas le cas, les gens les gardent. Quand je tombe sur des petits points comme ça, des anciens vélos, à trouver des pièces assez spécifiques et tout, c'est vraiment un petit plaisir. Des vélos qui demandent, voilà, qui demandent des vélos que personne ne veut faire, parce que justement, ça demande un petit peu trop de... On n'est pas vraiment rentable au niveau main-d'œuvre, parce qu'on met souvent deux fois, trois fois plus de temps que ce qu'on facture. Mais bon, c'est des petits challenges, quoi. Ça permet de garder des anciens en circulation.
On retrouve la même volonté de lier travail et prise de position pour la partie restauration du Vélobar.
C'est une offre 100% végétarienne au niveau de la restauration, 100% bio et 100% fait maison. Donc on fait tous nos produits entièrement ici. Une offre autour de quiches, tartes, mais aussi crudités, soupes et puis d'autres féculents, légumineuses, etc. aussi sans viande et sans poisson, c'est un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, je pense qu'on a beaucoup de choses à remettre en question de ce côté-là. Et c'était un choix à la fois philosophique, on va dire, et puis en même temps, autour, pareil, de la santé, proposer quelque chose qui soit plus léger et de qualité. C'est non seulement bio, mais on essaye de promouvoir l'économie locale. Donc à 90% de nos produits sont locaux. Les légumes, en grande partie, on les ramasse nous-mêmes à Saint-Jean. Donc le Jardin de l'Avenir, c'est un magasin bio qui ouvre ses champs au public. Au moins une ou deux fois par semaine, on va les ramasser nous-mêmes, nos légumes. Et puis on complète par les petits marchés. Donc il y a toujours des producteurs bio au marché Lafayette le mercredi matin ou le vendredi soir rue Saint-Julien. Quand il faut, parce que aller à Saint-Jean, là aussi, hein, c'est toujours dans l'optique développement durable, économie d'énergie, etc. S'il nous manque 4 salades, aller faire l'aller-retour à Saint-Jean pour aller chercher 4 salades, c'est pas vraiment dans notre état d'esprit. Donc, on profite de faire travailler aussi les producteurs qui se présentent sur les marchés.
Et si le bilan est plutôt positif jusqu'ici, les gérants du Vélobar voient encore plus loin.
À terme, on est persuadé que les villes devront être désengorgées de leurs voitures et qu'il faudra faire plus encore pour le vélo qu'on fait aujourd'hui. Enfin, si Angers, dans les années qui viennent, continue à grossir, il y a un moment donné, on ne pourra pas placer toutes les voitures en centre-ville, c'est pas possible. Donc, il y aura forcément des politiques de transport au niveau du vélo qui évolueront. Et voilà, et on essaye d'être, nous, dans cette dynamique-là, d'encourager les gens à le faire. Parce que voilà, plus il y aura de cyclistes et plus nos politiques feront le nécessaire pour que ça se fasse le plus aisément possible, surtout avec la meilleure sécurité possible, puisque c'est quand même ça... aujourd'hui le souci, hein, c'est que c'est pas tout de mettre des pistes cyclables comme là la rue Bressigny avec une piste en sens inverse. Et les cyclistes qui viennent en sens inverse sont pas en sécurité du tout dans la rue Bressigny. Donc il suffit pas de tracer quelque chose au sol, il faut aussi mettre la sécurité, je pense, et donc on peut aller encore plus loin.
Paola Dupéré, Sandrine Guichard, Alice Fontenot, Marion Bonnet, bonsoir à toutes les quatre.
Bonsoir.
Vous connaissiez, vous, ce principe, ou peut-être même ce bar, le vélo bar, ça, c'est quelque chose qui vous parle, je ne sais pas, qui veut réagir, Sandrine Guichard.
Oui, moi j'ai vu l'ouverture de ce bar, ce vélo bar. Alors, n'habitant plus sur Angers, donc n'ayant pas de vélo sur Angers, je me suis dit que c'est peut-être exclusivement réservé aux cyclistes. Mais j'avais l'intention, parce que j'avais compris que c'était aussi une initiative d'un couple d'anciens salariés, et j'étais assez admirative qu'ils aillent au bout de leurs rêves, et je m'étais promis d'aller goûter leur cuisine, surtout qu'elle était bio. Donc je pense que je vais y aller, suite en plus à ce que j'apprends tout de suite, j'ai envie d'aller découvrir ce qu'ils font.
Oui, tu veux y aller, je sais pas, Paola Dupéré.
C'est vrai que, étant une fréquentatrice de la rue Bressigny, travaillant à l'Université catholique de l'Ouest, je connaissais le vélo bar et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est pas facile pour ceux qui travaillent dans le quartier de trouver de la nourriture qui soit biologique, confectionnée maison et qu'on puisse consommer en très peu de temps. Donc bravo aux deux personnes pour cette initiative. Ça nous permet de manger correctement, même pas loin du poste de travail.
Thibaut, quand tu es allé faire ce reportage, est-ce que tu t'attendais à une démarche aussi forte que celle-là, aussi engagée dans le développement durable ?
Non, pas forcément. Je me doutais, en passant devant, en discutant un peu sur toute la démarche bio, locale, sur voilà, je pensais qu'il y avait un peu de ça, et on n'en vient pas à la réparation de vélo, je pense, sans volonté derrière aussi. Mais que le concept aille jusqu'au bout, non, effectivement, j'étais agréablement surpris. C'est eux qui ont fait tous les travaux à l'intérieur aussi, en utilisant tout ce qui est éclairage, en économie d'énergie. Donc c'est pas... En tout cas, de les écouter parler, c'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est vraiment une démarche globale qui les tient à cœur. Donc voilà.
Très bien. Belle conclusion. Le sous-marin revient dans 5 minutes. On va parler de professionnalisation à la fac. Thank you. C'était Don Drummond avec le titre Roll On Sweet Don dans le sous-marin. Évidemment, c'est sur campus. Tout de suite, on parle de professionnalisation à la fac. Pour ça, on est entouré sur le plateau, bien entouré d'ailleurs, de Paola Dupéret, qui est maître de conférences à la Cato, responsable du Master 2 Ressources Humaines en Alternance, et trois étudiantes de ce même master, Alice Fontenot, Manon Bonnet, que je n'arrête pas d'appeler Marion, je m'en excuse hein, d'ailleurs, depuis le début de l'émission, et Sandrine Guichard. La professionnalisation, a priori, c'est pas ce qui est le plus en vue dans une fac. En quoi c'est nécessaire aujourd'hui? Je vous pose la question, Paola Dupéret.
Alors, la professionnalisation est une nécessité aujourd'hui pour les jeunes, que ce soit à formation initiale et les moins jeunes à formation continue, car les entreprises exigent de plus en plus des professionnels opérationnels et compétents dans un temps très rapide. Donc la professionnalisation est cet ensemble de dispositifs qui permettent aux étudiants d'apprendre à la fois des connaissances théoriques de fond, mais aussi de développer des compétences professionnelles qui leur permettent du coup, à l'issue de la formation, d'être opérationnels sur le terrain pour un potentiel employeur.
Oui, non.
C'est vrai que à la Cato, on est assez servi pour la professionnalisation parce que pour avoir fait l'ensemble de mon master dans cette école, c'est vrai qu'on a pu avoir la chance de faire une année de césure avec 2 fois 6 mois de stage et là une année en alternance. Donc c'est vrai que c'est quand même une formation qui nous prépare à l'entrée sur le marché du travail.
Et puis c'est vrai que ça permet de vraiment acquérir une crédibilité auprès des entreprises. Et comme tu le disais, Paola, vraiment d'acquérir des compétences opérationnelles et qui peuvent nous servir pour notre entrée sur le marché de l'emploi.
D'autant plus qu'il y a quand même un écart certain encore aujourd'hui entre l'université et l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ces dispositifs pour essayer d'être au plus près du terrain.
Thibault ? Oui, Paola Dupéret. Alors qu'est-ce que ça change au point de vue de l'enseignement ? On suppose que l'approche est différente ?
Absolument. En fait, c'est un mélange un peu savant parce que les masters ou les licences, par ailleurs, ce sont des dispositifs universitaires. Donc, on essaye d'allier des enseignements, on va dire, traditionnels, hein, des cours magistraux, avec des enseignements plus professionnels qui sont mis en œuvre par des consultants ou des professionnels qui sont dans l'exercice de leur emploi, qui apportent plutôt leur expérience et qui amènent les étudiants plus sur des études de cas, des analyses de situation ou de l'analyse de la pratique. Donc en fait, c'est dans le dispositif de formation, on retrouve à la fois des enseignements méthodologiques théoriques classiques qui sont animés par des enseignants universitaires et des enseignements plutôt professionnels qui sont dispensés par des professionnels ou des consultants.
On imagine que pour vous, en tant qu'étudiante, ça change aussi beaucoup de choses, les relations par exemple que vous avez avec le personnel encadrant Non, ça, par rapport à une licence ou un master, on va dire, classique.
En tout cas, avec les enseignants, nous, c'est ce qu'on remarque, surtout depuis cette année en Master 2, c'est qu'on a vraiment un échange très intéressant avec les intervenants. En fait, ce qu'on apprend en cours, fait écho avec les expériences qu'on a eues en stage ou en alternance, et ça permet vraiment de créer un échange intéressant plutôt que d'avoir un échange unilatéral où on prend le cours et où on est là en spectateur. En fait, là, on peut vraiment participer et échanger.
Oui, Sandrine Guichard.
Oui, Alice, je partage ton point de vue, surtout qu'en fait, on peut rapidement utiliser des connaissances transmises la semaine, puisqu'on a un rythme d'alternance de 15 jours. Et à l'issue des 15 jours, quand on retourne dans l'entreprise, on peut mettre en pratique ce que l'on vient d'apprendre et voir où on a éventuellement des écueils, les corriger. Et les 15 jours suivants, quand on retourne à l'université, bah, faire échanger aussi avec les enseignants sur des questions, sur des surprises, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Donc, je trouve vraiment que le mariage pratique, théorique est optimal dans le cadre de cet apprentissage.
Et cela est d'autant plus riche qu'on a chacun des expériences dans des entreprises différentes, ce qui fait qu'on peut, chacun partager ce qu'on vit dans l'entreprise. Donc, c'est d'autant plus riche pour la dynamique de groupe ensuite.
On se retrouve à combien dans ce type de formation ? Est-ce que forcément, plus c'est un groupe réduit, plus c'est facile de communiquer, d'échanger ? Vous êtes combien à titre d'exemple dans votre master ?
Alors là, actuellement, en master 2, on est 15, il me semble.
Oui, 15,
oui, en alternance. 15. Oui.
C'est une volonté aussi de bloquer et de mettre, par exemple, là en l'occurrence, que 15 personnes admises pour avoir cet effet de groupe, de petit groupe.
Absolument. Sur le master ingénierie des ressources humaines, en fait, nous avons estimé opportun identifier deux groupes. Un groupe qui est notamment, que nous appelons un stage continu, donc qui suit l'enseignement, on va dire, traditionnel. Et puis un groupe beaucoup moins nombreux, effectivement, de 15 étudiants, qui est un groupe alterné. Donc, dans ce cadre-là, il y a donc un suivi beaucoup plus poussé et un rythme de formation qui est tout à fait différent, s'articulant sur 15 jours de formation et 15 jours de travail en entreprise, en fait.
Thibault ?
Le regard sur la manière d'enseigner, il doit aussi évoluer, je suppose, par rapport à une formation, entre guillemets, classique.
Absolument. D'un point de vue du coordinateur pédagogique, ce sont des dispositifs qui se rapprochent beaucoup de la formation continue. Ça veut dire qu'ils sont pensés à partir des compétences professionnelles. Après, il est vrai aussi qu'il s'agit de dispositifs universitaires, donc de diplômes d'État, qui doivent respecter un protocole qui est celui de l'université. Nous n'avons pas toute la marge de manœuvre. Il est clair que même les enseignants traditionnels qui interviennent sur ces dispositifs ont une approche de pédagogie active et participative qui est beaucoup plus axée sur l'étudiant et ce qu'il vit que sur les apports, on va dire, strictement théoriques. Mais on n'est pas encore dans des dispositifs à l'anglo-saxonne. Voilà, on reste dans un cadre qui est universitaire où on a quand même un certain nombre de connaissances techniques à développer et un protocole d'évaluation qui reste celui de l'université française. Donc, on doit s'y tenir.
On imagine que pour les professionnels à la sortie de ce type d'études, alors que ce soit en licence ou qui plus est en niveau master, ça doit être très intéressant pour les employeurs. Je pense que vous avez un bon taux d'intégration, on dit ça comme ça, Paola Dupéré, non ?
Oui, les taux sont assez bons, effectivement. Hein. En termes de... Je ne saurais pas vous citer le pourcentage exact, mais c'est un master qui est assez coté sur le territoire, aussi bien évalué par des revues comme Liaison Sociale. Nos étudiants trouvent assez facilement du travail dans les limites du marché du travail. Je veux dire, il s'agit quand même de le chercher activement. Il y a à peu près 6 mois de recherche avant de trouver un CDD ou un CDI. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants trouvent du travail dans leur domaine de compétences et en général arrivent à progresser assez vite.
C'est compliqué de trouver son alternance quand on est dans ce type de formation.
Alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien rechercher et s'y atteler. Ça demande quand même pas mal de travail, de préparation aussi, parce que les entretiens, il faut les préparer et il faut savoir se vendre. Donc, ce n'est pas forcément facile tous les jours. enfin tous les jours en tout cas dans les entretiens. C'est vrai que oui, c'est pas forcément facile, surtout quand on a des rythmes d'alternance qui conviennent pas forcément aux entreprises ou qui préféraient d'autres rythmes. Donc bon, après, c'est vrai que les opportunités aussi dépendent.
Bah non, c'était compliqué aussi.
Non, bah je suis à peu près d'accord avec Alice. Après, c'est vrai que notre chance, c'est d'avoir pu faire un master 1 en 2 ans qui offrait la possibilité de faire une année de césure et donc d'avoir un peu d'expérience déjà en ressources humaines. Et je pense que ça a facilité nos recherches, peut-être en comparaison avec d'autres masters. Mais c'est sûr que voilà, la concurrence est quand même présente en RH, donc ça reste assez difficile de trouver.
Antoine, tu avais une question aussi.
Et justement, vous venez de dire que c'est assez difficile de trouver. Est-ce qu'avec la crise qui a touché quand même bien le monde du travail, est-ce que c'est aussi accentué peut-être cette difficulté de trouver un employeur et même d'arriver à trouver quelque chose dans la branche dans laquelle vous êtes ?
Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop vu l'impact de la crise parce que j'ai pu faire des entretiens plutôt dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, et peut-être que voilà, il y avait moins cet effet, ces difficultés-là. Après, je sais pas pour les personnes qui ont pu rencontrer des DRH de petites PME comment ça s'est passé, mais j'ai pas trop vu cet effet-là pour ma part.
Oui, moi non plus, pas forcément. Ça concerne peut-être plus les emplois en tant que tels, plus les CDI, mais ouais, un contrat d'alternance.
Non, ça n'a pas été un gros problème. Pas tant que ça.
Faut s'y atteler, mais bon.
Après, voilà. On le verra peut-être après, les entreprises sont quand même pas mal aidées sur ce type de contrat. Donc c'est vrai que c'est une aide aussi pour elles.
Oui, justement, pour les entreprises, c'est quand même assez intéressant, un peu comme tout type de contrat d'apprentissage, hein, y en a beaucoup. Ça a forcément un avantage pour l'entreprise, non seulement en formation pour pouvoir garder éventuellement le salarié derrière, même si ce n'est pas ce qui est le plus monnaie courante, mais toujours est-il que c'est un gros avantage. Thibaut, tu avais une dernière question.
Oui, en tant qu'étudiante en formation initiale ou continue, pour vous, ça a changé votre regard jusque-là, alternance sur le monde du travail, les entreprises, et ça vous a conforté dans ce que vous vouliez faire ?
Alors moi, personnellement, oui, totalement. Je trouve que l'alternance, c'est vraiment hyper intéressant pour pouvoir progresser dans ses compétences et de mettre aussi en œuvre les connaissances qu'on a en formation et de les mettre en œuvre donc du coup dans l'entreprise. Donc moi je trouve ça vraiment un plus.
C'est une réelle chance aussi pour gagner en maturité et voilà, se rapprocher au plus près des attentes des employeurs pour voilà nos futures recherches demain.
Alors pour vous là, je m'adresse à vous quatre, la professionnalisation comme ça à la fac via notamment le contrat de professionnalisation dont on parlera tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur moyen de s'insérer sur le marché du travail à la fin des études, pas rester on va dire sur la touche comme beaucoup d'étudiants qui sortent des bancs de la fac. Je sais pas qui veut répondre.
Pour ma part, oui, c'est vraiment un très bon dispositif. Je pense que les employeurs voient cela comme une année d'expérience, même si on n'est pas à temps plein dans l'entreprise, ce qui fait que voilà, ça donne une réelle plus-value au CV et encore plus pour moi qu'un stage.
Je suis aussi d'accord avec toi, Manon, parce que c'est vrai que le statut d'alternant n'est pas le même que le statut de stagiaire. Je trouve qu'en alternance, on est quand même plus considéré et donc ça se reflète en fait par rapport aux attentes des employeurs par la suite.
Sandrine Guichard, vous voyez ça comment ?
Alors moi, je vois ça de façon un peu différente puisque je suis en transition. En fait, le master que je suis avec mes collègues, je le suis parce que j'ai décidé de façon volontaire de quitter une entreprise à 45 ans et de redémarrer sur une autre formation. Et je vois aussi cette opportunité que d'allier cette théorie et cette pratique, et pour moi, dans à peine un an maintenant, c'est d'arriver sur le marché du travail avec une crédibilité. Et c'est pas tant de trouver un premier job comme mes jeunes collègues, mais voilà, c'est plus cette crédibilité que m'apporte de l'alternance pour, dans 6 mois, arriver sur le marché du travail.
MF avec le titre Free to Scream sur les ondes de campus, vous êtes toujours dans le sous-marin. Et nous, on discute toujours de la professionnalisation à la fac, mais on va parler un peu plus précisément du contrat de professionnalisation. C'est un contrat qui a vu le jour en 2004, ça commence à remonter. Paola Dupéré, quelles sont les conditions pour qu'une formation puisse être éligible à ce type de contrat ?
Alors, la formation éligible au contrat de professionnalisation doit être certifiante. Ça veut dire qu'il doit s'agir d'un diplôme universitaire, donc quel qu'il soit son niveau, une licence professionnelle ou un master, ou alors un titre enregistré au répertoire national de la certification professionnelle. Il s'agit là de titres plutôt professionnels qui sont enregistrés dans ce grand portail Internet et qui sont en fait proposés sous le sceau du ministre du Travail. Donc il y a d'autres certifications aussi, mais qui ne concernent pas forcément le cadre universitaire.
Thibault ?
Oui, et les différences alors exactement entre alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation, qu'est-ce que c'est ?
C'est une excellente question. Souvent, on confond l'alternance en tant que dispositif pédagogique avec les contrats en alternance. Donc, le dispositif pédagogique de l'alternance date de la loi Astier, en fait, au début du 1900. Et c'était un dispositif pensé, en fait, plus pour les métiers, pour l'enseignement technologique, qui permettait aux personnes en fait, de consacrer ce principe pédagogique de l'apprentissage en cours et sur le lieu de travail. Donc c'est un principe pédagogique tout d'abord. Puis l'État s'est saisi de ce principe pédagogique et l'a transformé en loi et donc a créé deux contrats spécifiques, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, qui sont des contrats particuliers, en fait. Le contrat de professionnalisation peut être un CDD ou un CDI. Le contrat d'apprentissage est un contrat à part entière et qui se base, par ailleurs, sur le principe pédagogique de l'alternance. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire en termes de différence, mais il y a donc les contrats d'alternance et le principe de l'alternance. Un stage, quelque part, met en œuvre ce principe pédagogique qui est un peu renforcé dans le contrat de pro.
Alors pour vous, étudiante qui avez choisi le contrat de professionnalisation, ça ne vous concerne pas a priori, Sandrine Guichard, c'est ça, c'est ce que j'ai compris ?
En effet, non, moi je ne suis pas dans ce cas.
Donc la question se dirige à Alice Fontenot et Manon Bonnet. Comment vous avez choisi cette voie et pourquoi ? Quels sont les avantages de ce type de contrat en particulier ?
Alors c'est vrai que pour le Master 2 que nous faisons à la Cato, déjà c'était uniquement sous forme de contrat de professionnalisation. Donc il n'est pas habilité à l'apprentissage. Donc c'était le choix entre une formation donc, en contrat de pro ou une formation avec un semestre de cours et un semestre de stage. Pour ma part, le choix de l'alternance était assez évident pour cette logique de professionnalisation, de mieux se préparer au marché du travail, d'acquérir davantage de compétences, d'avoir un contrat salarié, puisque c'est un contrat salarié qu'on a, et également de pouvoir avoir une rémunération, voilà, faut le dire quand même, pendant cette dernière année, puisque au bout de 6 ans d'études, voilà, on commence aussi à avoir des besoins. Donc c'est tous ces points positifs qui ont fait que j'ai choisi ce dispositif.
Et alors justement au niveau de la rémunération, c'est suffisant? Moi je pense par exemple à l'apprentissage, quand on a 14-15 ans qu'on est en apprentissage, commence à gagner sa vie, c'est sympa, mais rapidement on s'aperçoit que c'est quand même pas énorme. Vous avez aussi ce sentiment là ou non, arriver en Master 2 c'est relativement correct?
Alors en fait, les prix, enfin les rémunérations augmentent en fait au fur et à mesure des niveaux de formation et de l'âge. Bah aujourd'hui, on est en master 2, donc on n'a pas trop à se plaindre, on va dire. Enfin, c'est vrai que ça permet quand même de vivre et d'être indépendant. Donc c'est quand même un grand avantage. Faut savoir aussi que l'entreprise finance aussi la formation, donc pendant un an, et ce qui est vraiment pas négligeable. Donc oui, enfin vraiment, ça permet en fait d'être indépendant et voilà.
Et pour vous, en tant que professeur, quels sont les avantages de ce type de contrat ?
Pour moi, personnellement, il n'y a pas énormément d'avantages. Hein. Les avantages sont plutôt pour les étudiants, en fait. Si, du point de vue de l'institution, c'est pas forcément des dispositifs qui sont très intéressants. Dans la mesure où il y a en fait la théorie, il y a la pratique, les frais de scolarité sont pris en charge par l'OPCA auquel cotise l'entreprise. Sauf que ces organismes qui collectent un certain nombre d'impôts sur la formation professionnelle sont extrêmement tatillons sur des éléments administratifs très précis. Ce qui fait que la gestion administrative des étudiants en alternance se charge de toute une série de démarches qui finalement prennent beaucoup de temps, d'énergie et donc d'argent à l'institution. Donc ça, c'est pas forcément un avantage. L'encadrement pédagogique aussi est plus poussé, donc ça prend plus de temps, on va dire. C'est des dispositifs plus complexes, mais c'est des formations beaucoup plus intéressantes à coordonner, si j'ose dire, où la relation avec les apprenants, donc les étudiants et les enseignants est plus riche. Et surtout, ce sont des dispositifs plus efficaces qui allient à la fois le bon de l'université, ça veut dire l'enseignement théorique, méthodologique, structurel, mais aussi la formation professionnelle. Donc ce sont des dispositifs que j'ai plaisir en fait à mettre en œuvre parce qu'ils sont bons, ils sont efficaces et ils font un peu l'intérêt des personnes que nous accueillons.
Et alors, ça fait plus de 10 ans maintenant que ce type de contrat existe, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas autant parler que ça et on n'en a pas forcément selon les universités qui les proposent. Vous pensez que c'est justement ce type de contraintes institutionnelles qui font qu'on n'a pas vraiment de développement généralisé de ces contrats ?
Pour les entreprises, l'alternance, le contrat de professionnalisation est une embauche. Donc, je vais dire, ce sont les difficultés liées à l'embauche qui font que des petites, moyennes entreprises qui n'ont pas les ressources pour s'offrir en fait un service, par exemple intérim ou un service relation école. Voilà, ces entreprises-là vont avoir plus de mal déjà à connaître ces dispositifs, à les mettre en œuvre et à les encadrer. Et puis, effectivement, les difficultés de ces contrats sont liées aux difficultés de l'embauche sur le marché. Pour les universités, je vous dis, ces dispositifs lourds que certains enseignants peuvent coordonner uniquement s'ils sont compétents, donc s'ils ont les capacités en fait, de pouvoir les gérer, donc c'est plus difficile. Et puis, je pense qu'il y a une question d'information, puisque ce sont des dispositifs complexes qui fait que les entreprises ont du mal à se les approprier. Quand ils doivent embaucher, ils embauchent point.
Les étudiants passent donc 2 semaines en cours, 2 semaines en entreprise. Comment ça se passe en entreprise? On vous donne quoi à faire comme tâche? Est-ce que vous êtes considéré pleinement comme faisant partie de l'entreprise? On vous regarde comment là-bas?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le statut d'alternant est quand même assez différent du statut de stagiaire, dans le sens où on ressent quand même être plus considéré vraiment comme quelqu'un qui travaille, enfin qui est salarié. Donc déjà, c'est vraiment un point positif. Les missions, c'est vrai que ça peut vraiment dépendre des entreprises dans lesquelles on travaille et dans le domaine qui est concerné, mais souvent, on est amené quand même à avoir des responsabilités. Plus ou moins importantes selon les missions, selon les projets. Je trouve qu'il y a vraiment un beau regard en entreprise et que les personnes avec qui on travaille nous considèrent vraiment comme des salariés en tant que tels.
Manon Bonnet, c'est pareil
Oui, la même chose. C'est vrai qu'on a, je sais que Alice et moi, on a vraiment des objectifs précis avec un entretien biannuel qui va nous être fait, des points réguliers, donc vraiment comme des salariés.
Sandrine Guichard, vous sentez une différence entre quelqu'un qui est en alternance et quelqu'un qui est en CDI ou en CDD, mais qui est là, on va dire, 35 heures par semaine, etc. Il y a une différence de traitement ou pas du tout?
Alors, de mon côté, j'ai entamé le stage récemment, donc je n'ai pas assez de recul pour parler d'une perception différente de moi en tant que stagiaire et d'un CDI ou CDD normal. Néanmoins, rapidement, on m'a confié des missions en me considérant comme une employée lambda. Et d'où l'intérêt de se retrouver à mettre en pratique ce que l'on apprend. On attend aussi de moi beaucoup d'apporter un peu de veille au niveau des connaissances, parce que le cabinet pour lequel je travaille est constitué de gens qui sont sortis de leurs études il y a au moins 10 à 15 ans, et ils espèrent que je vais apporter un petit peu de connaissances de ce que j'ai pu apprendre, et est-ce qu'il y a de la nouveauté au niveau de l'intervention d'entreprise, au niveau des méthodes, et je sens vraiment qu'il y a cette attente de l'entreprise.
C'est aussi ça l'avantage pour les entreprises, d'injecter du sang neuf, de renouveler un peu tout ce qui a été connu et reconnu et déjà fait.
Oui, enfin moi en tout cas, en prenant ma propre expérience, on me demande souvent est-ce que tu as des propositions à faire. Ils attendent vraiment en fait qu'on apporte des nouvelles idées par rapport aux expériences qu'on a eues précédemment. Et c'est vraiment une attente de leur part.
Ouais, c'est pareil. C'est
la même chose pour moi. Ouais. Je me souviens avoir fait un rapport d'étonnement 2 mois après mon arrivée qui a pu apporter pas mal d'infos pour les personnes qui sont en poste depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est intéressant, je pense, d'avoir un regard nouveau et un regard qui n'a pas la même connaissance de l'entreprise que les personnes qui y sont, en fait.
Thibaut, dernière question.
Oui, alors je m'adresse peut-être un peu à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ce type de contrat en alternance soit la solution pour éviter qu'un certain nombre d'étudiants ou d'anciens étudiants se retrouvent sur le carreau une fois sortis de la fac?
Alors, moi, je pense que oui, parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la réalité du terrain et aussi de savoir très rapidement si ce qu'on a choisi, déjà, ça nous correspond. Et si oui, tant mieux, ça nous permet d'avoir une crédibilité et donc du coup de retrouver une entreprise à la sortie de ses études, je dirais peut-être plus facilement. Et si on se rend compte que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas, ça nous permet de nous réorienter assez rapidement également.
Après, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas adapté à toutes les formations. et tous les domaines d'activité. C'est vrai qu'en RH, c'est vraiment bien adapté, je pense, mais je ne sais pas si c'est adapté aujourd'hui à toutes les formations. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça ne se développe pas dans certains domaines.
Ouais, est-ce que c'est envisageable, justement, Paola Dupéret, une généralisation de ce type de proposition ou comme vient de le dire Manon Bonnet, c'est peut-être un peu compliqué en fonction
des... Oui, oui, c'est délicat. Ça reste tout de même un dispositif relativement marginal dans l'offre universitaire pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. D'ici, l'alternance a déjà fait ses preuves. Hein. Je vous disais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le principe, il est très ancien et efficace pour un certain nombre de professions. Après, qu'il soit la solution pour que tous les étudiants arrivent à s'insérer sur le marché du travail, je serais plus réservée. Une bonne insertion professionnelle est le résultat d'un certain nombre de démarches, à la fois de développement personnel et professionnel de l'étudiant, où il apprend progressivement à la fois un certain nombre de compétences techniques, de compétences professionnelles, mais où il lui-même, en fait, s'essaye un certain nombre d'expériences. Donc un étudiant qui s'insère, c'est pas simplement un étudiant qui a eu un bon cursus scolaire, qui a fait de l'alternance, mais c'est un étudiant qui s'est donné les moyens de découvrir plein de choses, d'enrichir son bagage culturel, son bagage professionnel, et d'apporter un regard plus complexe sur la vie et sur le travail. Donc c'est pas suffisant, c'est un bon moyen pour se frotter à la réalité professionnelle, pour gagner en maturité, comme le disaient Manon et Alice. Mais d'ici à dire que c'est la solution, il y a plein de choses qu'il faut travailler pour un étudiant.
De manière générale, on recommande quand même, si c'est possible, de prendre ce type de voie.
Oui, je pense, nous, en tant qu'étudiantes, en tout cas, on recommande.
Et c'est certainement une bonne idée, hein. Faut pas s'en priver.
Ça a l'air. Le sous-marin revient dans 4 petites minutes. We'll be right back. Night Rainer Disco Dub de Fine Dress Star. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup Étienne hein, qui est à la programmation pour ce titre magnifiquement dur à dire. Voilà, le message est passé, vous êtes dans Campus, dans le sous-marin sur Campus. Et tout de suite, on va passer, bah, non pas au cabinet des curiosités d'Antoine, c'est devenu le mash-up de l'actu.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors Antoine, rebonsoir, bonne année.
De même.
Tant qu'à faire. Ce soir, tu nous offres une petite compile alternant entre dessin, fléau et exclusion.
Tout à fait. Bonsoir donc à tous et meilleurs voeux. Vous l'avez donc peut-être croisé sur les réseaux sociaux hier soir. C'est évidemment à la une de Charlie Hebdo de ce mercredi 6, donc d'après-demain. Numéro spécial, un an après les dramatiques attentats qui ont tué, blessé et meurtri. Eh bien, cette une, signée Iris, grièvement blessée durant cette boucherie, représente un religieux illuminati avec une calage dans le dos et du sang sur les mains. Elle est entièrement parée de noir et de blanc avec du rouge pour les gouttes de sang. Cette édition spéciale est doublée et imprimée, excusez-moi, à 1 million d'exemplaires, dont un petit quart sera destiné d'ailleurs aux éditions étrangères. Les attentats ont aussi divisé au sein même de l'équipe du journal. Luz, traumatisée, a quitté le journal en septembre dernier, tandis que Patrice Pelou, le célèbre urgentiste, lui s'est un peu distancié par rapport à l'équipe. Mais tous les autres sont restés. Donc il reste une petite vingtaine de membres au sein de l'équipe qui vient d'emménager dans un nouveau local, excusez-moi, qui est ultra sécurisé, qu'ils appellent en interne le Fort Knox. Alors évidemment, c'est pas facile de plaisanter dans cette ambiance. Laurent Léger, contributeur à l'hebdomadaire satirique, a même déclaré, je cite, « Les conditions de sécurité à Charlie, probablement nécessaires, restent insupportables. Ils veulent continuer quand même à rire de tout, pas question d'autocensure, sinon cela signifierait qu'ils ont gagné. Si l'actualité nous amenait à redessiner Mahomet, on le ferait. Proclame, excusez-moi une nouvelle fois, Eric Portelot, co-actionnaire du journal avec Chris, directeur financier. Nous sommes lus maintenant par beaucoup plus de gens qui ont découvert l'humour particulier de Charlie, ajoute-t-il, en visant des ventes qui tourneraient autour de 100 000 exemplaires, Pierre-Louis.
Oui, deuxième titre, Antoine.
Oui, tout à fait.
Et la botte. Ebola. Oh, putain, c'était compliqué à dire. Ebola éradiqué. C'était ça?
Oui, c'est ça. Bien, avec une virgule. Et oui, effectivement, après 42 jours sans nouvelle contamination, l'OMS a officialisé ce mardi 29 décembre la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les médias ont donc d'ailleurs très très peu parlé. Le pays avait été le berceau de cette fièvre hémorragique qui s'était déclarée en 2013. Le pays va quand même toutefois, cher Pierre-Louis, entrer dans une phase de, je cite, surveillance renforcée pour prévenir tout nouveau cas. Et c'est une maladie qui a quand même fait 11 300 morts depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres officiels de l'OMS. Et ça mérite donc évidemment la plus grande vigilance de part des autorités de santé et des autorités politiques. Donc le 3 septembre, la période de 42 jours s'est à nouveau écoulée et le Liberia a été déclaré Ebola free, comme ils disent. Mais il y a un garçon qui en est décédé en novembre, ce qui fait que ça a retourné les compteurs à zéro et c'est reparti pour une nouvelle phase de surveillance. Pierre-Louis.
On termine avec la politique internationale. Contre la liberté de la presse, ça chauffe dans la terre du milieu.
Tout à fait, t'as pas appris mon jeu de mots. Je suis très déçu.
Non, l'Empire rouge, vert de rage. Non, j'aimais pas, désolé.
Ça vaut ce que ça vaut, c'est nature avec Noël, ça tombe bien. Ursula Gauthier, qui était en poste depuis 6 ans en Chine, journaliste et correspondante pour anciennement le Nouvel Obs, actuellement l'Obs, a décollé donc jeudi dernier de l'aéroport de Pékin, en partance donc pour Paris, car le gouvernement chinois était mécontent de l'un de ses articles du 18 novembre dernier sur les Ouïghours, qui est un peuple musulman en Chine. Et donc Pékin a refusé de donner sa carte de presse, qui a automatiquement empêché de renouveler son visa, ce qui fait que du coup elle a dû partir. C'est la première des correspondantes en Chine à être expulsée depuis 2012. La dernière, c'était Melissa Chan, qui travaillait pour Al Jazeera. Et le ministère des Affaires étrangères, qui a reçu quand même quelques...
T'es perdu. Vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Toi.
Enfin voilà, le ministère des Affaires étrangères a assuré, excusez-moi, que la France avait multiplié les démarches à Paris comme à Pékin pour tenter de convaincre la Chine de la garder, mais... Voilà, donc le ministère a été accusé d'inaction totale, excusez-moi.
C'est pas grave, c'est la reprise.
C'est ça.
Ça a l'air compliqué.
Ah oui, c'est très compliqué. Et il y a donc eu 3 démarches auprès de l'ambassadeur de Chine à Paris, 2 auprès de celui à Pékin, une déclaration de l'Union européenne à Pékin, mais tout cela a été donc vain. Et donc comme quoi en 2015, excusez-moi, il n'est pas toujours bien vu d'informer normalement les citoyens du monde entier. Une pensée aussi au grand Michel Galabru qui nous a quittés dans la nuit. En vous souhaitant une belle et douce soirée.
Merci beaucoup.
Moi, je vais prendre un café.
Oui, prends un petit café, ça ira mieux. Bien serré d'ailleurs. Ouais. Paola Dupéré, Alice Fontenot, Manon Bonnet, Sandrine Guichard, ça vous fait réagir? Il y a une de ces nouvelles qui vous fait réagir peut-être? Je ne sais pas, qui veut y aller?
Personnellement, ce qui me fait réagir, c'est la question de Ebola, en fait. C'est une très très bonne nouvelle. Et finalement, la couverture médiatique n'a pas été très importante. C'est dommage, ouais, parce que c'est quand même une grosse partie de la planète qui était impliquée, pas la plus résistante par ailleurs, déjà frappée par un certain nombre de difficultés. Donc je me réjouis de ce beau cadeau de Noël pour l'humanité.
Effectivement, très beau cadeau de Noël. Sandrine Guichard.
Moi, c'est plutôt la liberté de la presse menacée plus que jamais. Le rôle du journaliste aujourd'hui, que j'admire. Ces journalistes qui se battent partout dans le monde. Voilà. Et ça m'émeut énormément. Et j'espère que cette année, on ne va pas vivre ce que 2015 nous a réservé.
Manon Bonnet.
Merci Antoine pour ces informations. Donc, c'est vrai qu'on pense très fort aux victimes de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et voilà, on les a en tête au bout d'un an déjà.
Un an.
Alice Fontenot.
Un petit peu la même remarque sur Charlie Hebdo, donc avec une grande tristesse pour tous ces événements qui ont touché la France. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à toutes d'être venues sur le plateau. Merci beaucoup Thibaut pour ton reportage et ton aide toujours très précieuse. Et puis merci beaucoup Antoine d'avoir assuré en même temps la chronique, en même temps la réalisation.
C'est talent.
Voilà, c'est très beau. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Et juste derrière, ou en tout cas, vous allez attendre 35 minutes, à peine, pour l'émission, la troisième déjà, de nos chers programmateurs. Émission un peu déjantée, Programmato. Allez, à demain.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.